Je sais pas, mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est la mode.
Mais il y en a pour tous les goûts.
C'est quoi la mode?
La mode repose sur le mimétisme et le jeu. Et c'est un fait social, dit fait social total, car il implique profondément les individus et touche simultanément aux environnements artistiques, économiques, politiques, sociologiques, des groupes sociaux concernés, mais aussi de ceux qui sont à leur contact.
Ah, oh,
oh, oh.
L'écologie, c'est une mode?
Non, c'est une nécessité.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbère.
Au sommaire ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbère, nous commencerons par la minute convention collective, pour nous rappeler les versions les moins avantageuses et les plus avantageuses concernant les temps de pause. Cet instant sera suivi par la rubrique environnement, dans laquelle Anne-Laure nous expliquera comment composer une bonne salade sauvage. Rubrique suivie par la lecture d'un texte historique, le préambule à la Constitution de 1946, l'occasion de se rappeler de nos droits et des devoirs de nos gouvernements. Et pour clore l'émission, un joli conte nommé « Les béquilles », écrit par Martine Cantry-Segui. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Allez hop, c'est parti. Vous écoutez les allumeurs de réverbère.
Recommençons sur de bonnes bases avec la minute convention collective. Les temps de pause, en vigueur étendue, la durée du travail effectif, qui est à distinguer du temps rémunéré par l'employeur, et le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La prise en compte ou non dans le travail effectif de tout ou partie des temps de pause liés à la réglementation en matière d'hygiène et sécurité ou à la réglementation des temps de trajet domicile lieu inhabituel de travail sera négociée par accord d'entreprise ou d'établissement en fonction des spécificités propres à chaque entreprise. L'article L3121-33 du Code du travail indique qu'une pause minimale de 20 minutes est obligatoire au bout de 6 heures consécutives de travail. Une convention collective peut prévoir des pauses plus fréquentes ou plus longues et peut également prévoir que le temps de pause soit rémunéré. Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, dans les centres d'appel, les salariés soumis de manière continue à des appels fréquents et répétés dont ils n'assurent pas la maîtrise, bénéficient toutes les 2 heures d'une pause rémunérée de 10 minutes assimilée à du travail effectif.
Bravo les télécommunications, bravo!
C'est beau ça, maman, hein?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Eh ben, s'il y avait un petit peu plus de personnes comme ça et un peu moins de... Comme quoi?
Fatigué.
Fataliste.
Fabergé?
Non.
Il est fléchi.
À bout de souffle.
Mal élevé.
Mal aimé.
Déjà mort.
Ils ne savent pas rêver.
Ils n'ont pas appris. Les gens sont si moches que ça, maman?
Il y a des moments plus durs. Il y a des gens plus durs.
C'est quoi qu'on entend?
Une bande son.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
Ok, je vais parler de ce qu'on appelle maintenant les salades sauvages. Alors, l'idée de la salade sauvage, c'est quoi? Eh bien, l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle vulgairement les mauvaises herbes du jardin, mais qui sont en réalité bonnes pour, gustativement déjà, donc pour se faire des petits plats, et aussi pour la santé, parce qu'en général, chargé en bonnes choses, en minéraux, en vitamines, et tout ce qu'il nous faut. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut intégrer dans ce qu'on va appeler une salade sauvage ? L'idée première d'une salade sauvage, c'est qu'on va vouloir plusieurs plantes. Donc l'idée n'est pas de faire une salade d'un seul végétal, mais de mixer des végétaux entre eux pour avoir vraiment une explosion de saveurs et puis qui va être super originale en plus. Moi j'adore la salade verte de base, quelle que soit la variété de salade. Mais une fois qu'on a commencé à goûter aux salades sauvages, toutes les autres salades nous semblent fades, quoi. Donc, on va voir ce qu'on peut mettre un petit peu dans une salade sauvage avec des choses qui poussent dans de très nombreux jardins, au moins dans l'ouest de la France. Pour le reste, je ne sais pas, mais au niveau de l'ouest de la France, il y a des choses qu'on a dans tous les jardins. Par exemple, je vois une petite chose là, qui s'appelle la cardamine hirsute. La cardamine hirsute, donc c'est vraiment donc une mauvaise herbe. Donc on a bien dit, hein, les mauvaises herbes, leur petit nom scientifique, on va dire, c'est les adventices. Donc cette adventice, la cardamine hirsute, elle est facilement repérable. On voit vraiment, alors j'aurais beaucoup de mal, hein, en toute honnêteté, à la décrire visuellement, mais en tout cas, on ne peut pas la confondre avec une autre adventice. Elle a toujours cette espèce de forme un petit peu d'étoile, là, avec plusieurs branches, et sur chaque petite branche, une petite feuille plutôt ronde. Une fois qu'on l'a repérée, on ne peut plus se tromper. Et de toute façon, il n'y a rien qui lui ressemble et qui serait toxique, donc il n'y a pas de confusion possible. C'est ça qui est très important quand on fait une salade sauvage, c'est d'être sûr de ce qu'on choisit, quoi. Alors la cardamine hirsute, voilà, hop, comme tu vois, accueillir, c'est easy. Ce qui est juste un peu pénible, c'est qu'il y a une longue racine, un peu comme la mâche. Et voilà, bon, ça va falloir vraiment l'enlever et pof, ça passe dans une salade sauvage. En termes de goût, il y a très peu de goût. Mais justement, c'est une fois que ce sera combiné avec le reste des éléments de la salade, avec d'autres végétaux, que ça va prendre son sens, en fait. Par exemple, voilà, première étape de la cardamine hirsute. On ne va pas aller beaucoup plus loin pour notre deuxième élément de cette salade sauvage, en allant sur un végétal dont on a déjà parlé dans cette petite chronique, qui est l'ail triquêtre. Et l'ail triquêtre, tout l'ail triquêtre est mangeable, depuis la feuille jusqu'à la fleur, jusqu'au bulbe, parce que si j'arrache un petit coup là, hop, normalement, eh ben non, le bulbe est pas venu, mais c'est pas grave. Enfin, si, il est là, mais bon, bref, il est pas visible, donc vraiment, on peut manger de A à Z cette fleur. Et bien évidemment, vu que c'est de la famille des aliacées, il y a un goût d'ail fortement prononcé. Donc ça, c'est super sympa. Et en plus, comme tu le vois, ça se développe. Là, juste sur ce parterre, il y en a quand même pas mal. Donc, il y a moyen de faire beaucoup de salades. Et d'année en année, ça revient tout seul. Donc, il y a zéro travail à faire au travail du sol. Donc ça, c'est cool. Pareil pour la cardamine hirsute. On attend juste que l'ail triquêtre revienne. Donc concrètement, voilà, dans l'hiver, ça commence à revenir. Il fera des fleurs plutôt... un peu plus de chaleur sera revenu, mais fleur ou pas fleur, on peut le manger. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans cette salade ? Maintenant qu'on a déjà de l'ail triquêtre, ça va donner tout de suite du goût. Et alors, il y a quelque chose qui est génial. Si vous en semez une fois dans votre vie, vous en aurez toute votre life, c'est la mâche. La mâche, nous, on avait disséminé comme ça des graines dans le jardin. Et maintenant, d'année en année, on en a partout. Alors là, on a commencé à en manger pas mal parce que c'est parfait. C'est une salade d'hiver, quoi. L'hiver, les jardins, c'est pas là qu'il est le plus rempli, mais la mâche, il y en a à tous les coups. Donc voilà, là, si on se promène, on va peut-être en trouver. C'est vrai qu'on en a pas mal mangé déjà ces derniers mois. Autre chose, exactement dans les principes, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi de vous transmettre, c'est tous ces trucs qu'on va pouvoir manger et récolter dans le jardin, mais sans faire de travail, quoi. Juste en... Une fois, on met des graines dans notre vie, et après, c'est parti. Alors, la mâche, ok, mais aussi la roquette. La roquette, c'est juste génial. Au niveau temporalité, la roquette va se faner comme ça sur la fin du printemps, si je ne me trompe pas. Et après, donc, l'important, c'est de laisser un ou deux pieds de roquette qui vont monter, faire des graines, et les graines vont se ressemer toutes seules. Ce qui fait qu'on a de la roquette à life, quoi. pour toute la vie. Maintenant, tu l'imagines en rajoutant avec de l'ail triquetre, plus un peu de cardamine hirsute. Et j'ai envie de te dire que de là-dedans, tu peux rajouter des vrais, entre guillemets, des vraies feuilles de salade. Donc là, on a de la salade d'hiver, là. Je crois qu'on l'appelle la salade pain de sucre, si je me trompe pas. Donc voilà, tu vois, nous, on laisse les salades comme ça grandir. On en prend quelques feuilles. Ça continue de se développer, donc plutôt que d'enlever la salade en entier, eh ben, on n'en prend que quelques feuilles, ce qui fait qu'on a de la salade plus longtemps, quoi. Donc voilà, ça va venir grossir la salade. Qu'est-ce qu'on rajoute également dans cette salade? Eh ben, tu n'es pas obligé d'aller plus loin que ça. Ça, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle de la stellaire. Il n'y a pas franchement de goût, ça va juste venir ramener du feuillage. Et la stellaire, c'est typiquement le genre de truc que la plupart des gens arrachent sans savoir que finalement, on peut le manger. Et si vraiment ça ne vous tente pas de le manger, vous, si vous avez des poules, elles en raffolent. Ça permet de nourrir le poulailler. Parce qu'en hiver, c'est vrai qu'ils veulent du vert et il y en a un peu moins qu'au printemps, quoi. Voilà. Pour finir... Enfin, pour finir, en fait, je pourrais continuer parce que... Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dans une salade sauvage? Je pense aux lierres terrestres. Très fort en goût, il faut en mettre peu. Et bien sûr, y a un truc évident dont j'ai pas parlé. C'est le pissenlit, quoi. Évidemment, le pissenlit, combien de gens, ils s'embêtent à arracher les pissenlits, mais ma foi, arrachez-les et mangez-les, quoi. Parce que vraiment, c'est... Là encore, une salade que de pissenlit, c'est un peu amer, etc. Par contre, une salade mixte avec un peu de pissenlit, ça prend tout son sens. Donc c'est un peu ça le message que j'ai envie de faire passer, c'est essayer d'exploiter votre jardin, de faire les recherches de ce qui se mange, et vous allez d'ailleurs vous rendre compte que 70% d'un jardin se mange en réalité. Par exemple, nous on mange des feuilles de tilleul l'été, pareil, en mix dans une salade, donc il y a beaucoup, beaucoup de végétaux qui se mangent. Maintenant, il faut s'y connaître, il ne faut pas faire n'importe quoi. S'il y a le moindre doute, il ne faut surtout pas manger. Mais dans tout ce que je vous ai dit là, tous les éléments dont je viens de vous parler, il y a vraiment peu de risques, voire pas de risques. Donc mangez de la salade.
Allumeurs de réverbères.
Les discours politiques!
Mais tu vas arrêter de crier, s'il te plaît.
Tout le monde crie, maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes, réalistes, positifs.
Aventuriers?
Des résistants, avec un grand R.
Oh !
Et qu'est-ce qu'ils font ?
Ils s'occupent des autres.
Oh !
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Préambule à la Constitution de 1946, inclus dans le bloc constitutionnel français d'aujourd'hui.
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres, sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaire à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à son développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, est un devoir de l'État. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. La France forme, avec les peuples d'outre-mer, une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires, écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire. Elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
Mais maman, avec des si beaux discours, comment ça se fait qu'on en soit arrivé là ?
Je ne sais pas, mon chéri. Sûrement parce qu'ils ont oublié de te demander ton avis.
Raconte-moi une histoire.
Laquelle ?
L'histoire de quelqu'un qui s'est rêvé?
Oh, tu veux du rêve? Tu veux du rêve, mon petit bonhomme? Mais va peut-être falloir penser à les réaliser.
Georges.
Les allumeurs de réverbères.
Les béquilles. Tiré du livre Contes des sages de l'Inde de Martine Cantrick Segui. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi qui tomba de cheval. Il se brisa si gravement les jambes qu'il en perdit l'usage. Il apprit donc à circuler avec des béquilles, mais supportait mal son invalidité. Voir autour de lui les gens de sa cour valide lui devint bientôt insupportable et lui gâta l'humeur. Il refusa de se montrer amoindri. « Puisque je ne peux pas être semblable aux autres, se dit-il un matin d'été, chacun sera semblable à moi. » Il fit donc publier dans ses villes et villages l'ordre définitif que chacun s'embéquille, sous peine de mort immédiate. Du jour au lendemain, le royaume entier fut peuplé d'humains invalidés. Au début, quelques provocateurs sortirent au grand jour sans aucun support. Il fut certes difficile de les rattraper en courant, mais tous furent un jour ou l'autre arrêtés, condamnés, exécutés pour l'exemple. Nul n'osa réitérer la provocation, afin d'assurer la sécurité de leurs enfants. Les mères enseignèrent d'emblée à leurs bambins à marcher avec des béquilles. Il fallait s'y faire, on s'y fit. Le roi vécut très vieux. Plusieurs générations naquirent sans jamais voir personne circuler librement sur ses deux jambes. Les anciens disparurent sans rien dire de leur lointaine promenade, sans oser ensemencer dans l'esprit de leurs enfants et petits-enfants le dangereux désir d'une marche indépendante. À la mort du roi, quelques vieillards tentèrent de se libérer des béquilles. Mais il était trop tard. Leur corps usé en avait besoin désormais. Les survivants, pour la plupart, ne savaient plus se tenir droit. Ils demeurèrent prostrés sur quelques sièges ou allongés dans un lit. Ces tentatives isolées furent considérées comme de doux délires de la part de vieillards séniles. Ils eurent beau compter qu'autrefois on marchait librement, sans béquilles. On les considéra de haut, avec l'indulgence joyeuse accordée aux radoteurs. « Mais oui, grand-père, allons, c'était sans doute au temps où le bec des poulets était orné de dents. » Loin, là-haut, dans la montagne, vivait un solide vieillard solitaire qui, sitôt le roi défunt, jeta sans hésiter ses béquilles au feu. En fait, depuis des années, il n'avait jamais utilisé les béquilles chez lui ou seul dans la nature. Il les utilisait dans le village pour éviter les ennuis, mais n'ayant ni épouse ni enfant, il ne s'était pas privé du plaisir de sa belle et bonne marche. Il n'exposait personne d'autre que lui, et encore très secrètement. Le lendemain matin, il sortit vaillamment sur la place du village, se dressa devant les villageois médusés. « Écoutez-moi, il nous faut retrouver notre liberté de mouvement. La vie peut reprendre son cours naturel, car le roi invalide est mort désormais. Demandons que soit abrogée la loi qui contraignait les humains à marcher avec des béquilles. » Tous le regardaient. Les plus jeunes furent immédiatement tentés. La place grouilla bientôt d'enfants, d'adolescents et autres sportifs qui essayaient d'avancer sans béquilles. Il y eut des rires, des chutes, des écorchures, des bleus, mais aussi quelques membres cassés, car les muscles des jambes et des dos n'avaient jamais appris à porter les corps. Le chef de la police intervint. « Arrêtez, arrêtez, c'est trop dangereux! Toi, l'ancien, va vendre tes talents dans les foires. Il est clair que les humains ne sont pas faits pour marcher sans béquilles. Vois ce que ta folie a provoqué de plaies, de bosses et de fractures. Laisse-nous vivre normalement, disparais, et si tu veux vivre tranquille, ne tente plus de dévoyer cette belle jeunesse. » L'ancien haussa les épaules et s'en revint à pied chez lui. La nuit venue, il entendit gratter discrètement à sa porte. C'était si léger qu'il attribua ce bruit à une branche agitée par le vent. Il n'ouvrit pas. Alors quelqu'un frappa nettement à la porte. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous ? » demanda-t-il. « Ouvrez, grand-père, s'il vous plaît, » chuchota une voix. Il ouvrit. 10 paires d'yeux brillants le regardaient ardemment. Un gamin s'avança et murmura. « Nous voulons apprendre à marcher comme vous. Accepteriez-vous de nous prendre pour disciples ?»« Disciples ? Maître, c'est là notre désir. Enfant, je ne suis pas un maître, je ne suis qu'un humain en bon état de marche, au sens le plus simple du mot. Maître, « s'il vous plaît, » plaidèrent-ils ensemble. L'ancien eut envie de rire, mais les contemplant un moment, il fut ému. Il comprit que l'affaire était grave, essentielle même, que ces enfants-là étaient courageux, ardents, pétris de vie. Il portait les chances de l'avenir. Il ouvrit sa porte largement pour les accueillir. Des mois durant, sans rien dire à personne, ils vinrent seuls ou par deux pour rester discrets. Quand ils furent assez habiles, ils allèrent à pied ensemble au village. « Regardez, dirent-ils, voyez-nous, c'est facile et c'est joyeux, faites donc comme nous !» Une vague de panique envahit les cœurs craintifs. On fronça les sourcils, on les montra du doigt, on s'effraya beaucoup. La police vint à cheval pour cesser le scandale. Le vieux fut arrêté, traduit en justice, condamné selon l'édit royal et exécuté pour avoir perverti 10 innocents. Ses disciples, révoltés par le traitement infligé à leur maître, plaidèrent haut sur les places qu'ils marchaient et s'en trouvaient bien, montrant à qui voulait les voir combien il était confortable d'avoir les mains libres et les jambes prestes. Leurs démonstrations furent jugées fallacieuses. Ils furent arrêtés, jetés en prison. On estima cependant qu'ils avaient été entraînés dans l'erreur et on leur accorda des circonstances atténuantes. Aussi ne furent-ils condamnés qu'à des peines légères. Certains obstinés ne voulurent pas renoncer à prétendre qu'il fallait marcher sans béquilles. La communauté, inquiète, bousculée dans ses habitudes par leur étrangeté, les rejeta prudemment loin du village, en leur conseillant une carrière dans les foires. Pour ceux qui étaient restés et qui insistaient trop vivement, il fallut parfois appliquer strictement la loi. En général, cependant, ils furent plutôt considérés avec commisération et traités comme les fous du village, tenus à distance des enfants ou des bonnes familles. Aujourd'hui encore, on chuchote le soir, à la veillée et à mots couverts, qu'il existe malgré tout, ici et là dans le monde, de petits groupes qui ne semblent pas fous et qui prétendent marcher seuls, sans béquilles. C'est invérifiable. On enseigne aux enfants que ce sont là des contes.